Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative.
Ah, je suis assise au soleil, au coin de la maison, à l'abri du vent. Il y a l'eau qui stouille. Et je me prends 5 minutes de pause parce que je suis un petit peu cuite. L'agnelage se passe bien. Il y a pas mal d'agneaux, il y a quelques biberons. Il m'en reste 12 ou 13 à faire, donc ça va aller vite. Donc ça a commencé le 23 février, donc je suis contente parce que l'agnelage sera fait en un mois. Bon, c'est super intense, je passe, 6 heures par jour au tunnel, bon, plus le reste. Ce qui est bien, bon, c'est un petit peu épuisant, mais ce qui est bien, c'est que quand les agnelages sont groupés, en fait, ça fait des lots très homogènes. Et donc pour la suite, c'est plus facile dans la gestion, en fait. Tous les agneaux sont à peu près homogènes et donc c'est facile. Il y a le deuxième lot qui arrive le 7 avril. Et puis là, il a enfin replu, les températures sont plus douces. Donc l'herbe a reverdi, ça repousse un peu. Donc j'espère que je vais pouvoir sortir ce premier lot assez vite à l'herbe pour que les mamans profitent de la pousse d'herbe. Et du coup, les agneaux aussi, à part le lait, ils vont commencer aussi à pâturer. Donc pour les brebis, là, cette année, il y a du bon foin. J'ai commencé à leur donner du regain. Et puis, j'avais acheté du... Oui, mon lopi. Attends. J'avais acheté du grain dans le commerce parce que j'en avais pas assez. Et puis, voilà. Le coq chante. J'ai sorti les vaches. Hier, on a inséminé Pétunia parce qu'elle était en chaleur. Donc normalement... Si ça a marché, elle devrait faire son veau autour du 29 décembre. J'ai calculé pour que justement elle soit en lait un petit peu avant les agnelages. Donc ça, ce sera bien. Et elle est vraiment, maintenant, elle est vraiment très cool. Hein. Les déplacements, ça se passe bien. La traite, elle dit plus rien, même au débranchement. Enfin voilà, c'est super. Par contre, ouais, elle n'a pas beaucoup de lait. Donc là, j'ai été traire chez une voisine toute la semaine, donc j'ai récupéré du lait. Mais je regarde quand même sur le bon coin s'il n'y a pas une vache à vendre en lait que je pourrais traire, quoi. Sinon, je vais demander, je pense, j'irai acheter du lait chez des éleveurs laitiers en bio, quoi. Je vais voir. Qu'est-ce qui s'est passé sinon? À part les agnelages, je sais pas. Je suis vraiment que là-dedans. Si on a réussi à faire un peu de couture, mais le matin, c'est vrai que je finis quand même tard. Je passe quand même la matinée au tunnel. Le soir, je reprends donc au plus tard à 16h30 parce que ça me fait finir après 7h. Donc bon, voilà, ça fait quand même des grosses journées. On a fait quand même pas mal de semis. Donc là, ce qui me reste à faire pour ce matin, j'ai fait donc le tunnel, la bergerie où il y a l'agnelage. J'ai fait les poules, j'ai sorti les vaches dans un nouveau pré et il me reste à aller nourrir les béliers, déplacer les deux râteliers de foin parce qu'on a changé le deuxième lot d'agnelage et elles sont dans un autre champ où il y a de l'herbe, mais bon, ça va pas durer longtemps, donc je veux quand même leur mettre du foin. Et voilà, j'ai pas mal de papiers à faire parce que, enfin, c'est pratiquement fait, mais on a eu notre contrôle bio lundi matin, donc toute la matinée, donc voilà. Et puis on a eu un appel en même temps, ce lundi matin, pour le contrôle des animaux, en fait. Donc là, ça va encore prendre pas mal de temps, tout le mercredi matin, je pense. Donc c'est un contrôle que j'avais eu il y a 2 ans, donc là ils regardent tout, quoi, les documents de circulation, les boucles, ils regardent tous les documents papier pour savoir qui y avait exactement à quel moment, parce qu'on a avec la PAC, la politique agricole commune, en fait on a des aides ovines, donc c'est des aides pour chaque brebis, si on respecte toutes les règles, en fait on a 20 ou 21 euros je crois. Et donc, on est contrôlé sur ça, quoi, parce que c'est donc de l'argent public qui nous est donné. L'agriculture est subventionnée parce que, pour plusieurs raisons, hein, c'est un peu compliqué, mais en gros, pour que les prix aux consommateurs soient relativement abordables. Donc, il y a ça, mercredi, on a essayé de décaler parce que nous, on est en plein agnelage, enfin, c'est à 9h30, ça dure toute la matinée, le mercredi, on a Elga. Et non, ils n'ont pas voulu décaler, donc voilà, on va faire ça, et puis voilà. Donc ça c'est un peu, c'est Je suis pas vraiment stressée parce que voilà, on est dans les clous, dans les règles. Mais par contre, voilà, de pas pouvoir décaler, je trouve que c'est un peu bon. Bref. Donc voilà, tous les papiers, regarder si tout le monde a ses boucles et tout ça. Et lundi matin, j'ai emmené des agneaux pour de la vente directe. Donc il y avait ça en plus. Il faut que j'y retourne donc vendredi matin récupérer les colis de viande d'agneau découpée sous vide. Donc pour cette fois, j'ai changé de prestataire parce que là où je faisais avant, eh bien, ça fait deux, trois semaines où il y a des arrêts maladie. Donc il n'y a pas de personnel disponible pour la découpe. Donc j'ai changé, j'ai été à un autre abattoir et à un autre labo transfo. Donc c'est un petit peu plus loin que Bellac, là où j'allais avant. Mais on va voir. Et surtout, on va voir si les prix sont un petit peu similaires ou pas. Donc pour cette session, j'ai pas changé les tarifs des commandes parce que c'était commandé avec un prix annoncé. Et puis, je vais voir si ça change beaucoup ou pas. J'ai croisé le bouvier, donc parce que quand je pose mes agneaux, en fait, donc le bouvier, c'est la personne qui s'occupe de réceptionner les animaux et de remplir les papiers. Et il me disait que c'était un petit peu catastrophique au niveau de l'abattoir en fait parce qu'ils ont beaucoup moins de travail. Ils travaillent moitié moins qu'en temps normal. Donc j'ai pas exactement posé la question, mais je pense que il y a moins d'éleveurs, il y a peut-être moins de consommation de viande, ça je suis pas sûre, mais et puis je pense que avec la sécheresse et tout, je pense qu'il y a pas mal la sécheresse, les prix de l'énergie, je pense qu'il y a pas mal d'éleveurs qui ont soit arrêté, soit diminué les troupeaux. En bovin, je sais que les prix se sont cassés la figure, donc enfin voilà. Donc voilà, je sais pas, pour l'instant il y a encore de quoi abattre et transformer pas trop loin, mais je sais pas si ça va durer. Je pense que l'élevage a pas forcément le vent en poupe. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformations, de mauvaises informations. Et voilà. Et j'ai peur que, donc bien sûr, il y a une diminution des éleveurs. Je pense que le renouvellement est pas là, pareil, pour plusieurs raisons. Mais j'ai peur aussi que les petits élevages, enfin les petits ou moyens, enfin, et notamment la vente directe, j'ai peur que ça s'arrête, ça diminue un peu du fait de la disparition des outils, en fait, des outils de la filière, donc tout ce qui est abattoir et boucher, etc. Parce qu'en fait, faut savoir qu'un abattoir, je pense que si ça tombe pas à plein régime, c'est très vite déficitaire. Donc voilà, ça c'est un petit peu des questionnements. Moi c'est encore une grosse partie de mes ventes. Là j'ai regardé, on a vendu plus de la moitié de notre production en vente directe. Et le reste, donc c'était en circuit long. Mais moi j'ai envie de continuer la vente directe. Enfin, c'est ce qui me motive, quoi. Parce que on peut pas dire que je sois éleveuse pour vraiment faire de la viande, entre guillemets. C'est plutôt c'est plus large et plus grand que ça, en fait. Pour moi, chaque ferme devrait être en polyculture élevage, dans la mesure du possible, hein, évidemment. Quand vous êtes à 1200 mètres d'altitude, c'est difficile de produire vos propres céréales. Mais dans la mesure du possible, je pense que l'animal doit être le support, entre guillemets, du végétal et vice-versa. Le végétal doit être le support de l'animal. Mais je ne sais pas si on s'oriente vers ça. Et, ouais. Donc nous, on est autonome en foin, sauf cette année. Donc je sais pas si... Enfin, depuis 9 ans qu'on est là, on était autonome en foin et en céréales, en grains. Cette année, pour des raisons particulières, parce qu'on a dû partager avec pour moitié notre stock, en fait. Par exemple, en fumier, on est autonome. On arrive à amender, pas toutes nos prairies, mais en tout cas, tout le maraîchage et une partie des prairies. Et c'est vraiment... je pense que les fermes devraient avoir une certaine autonomie, et puis surtout ça devrait être un cycle le plus court et le plus fermé, entre guillemets, quoi, enfin voilà, le moins d'intrants possible, et avec un minimum d'export, quoi. Je sais pas si c'est des modèles qui sont possibles, si j'ai pas l'impression que qu'on se dirige vers ça. J'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers des grosses exploitations et de la spécialisation, ce qui est déjà énormément le cas, mais voilà. Mais en fait, le but, c'est nos valeurs, plutôt notre conviction, c'est de pouvoir produire le plus localement possible une alimentation le plus diversifiée possible. Donc nous, sur la ferme, on a 57 hectares, 54, je sais plus, 57, ouais. Et on fait pas mal de productions diversifiées, donc il y a de la viande, il y a des légumes. Et dans les coins, il y a quand même encore des systèmes assez similaires qui... Mais je sais pas si ça va tenir le coup, et bon, je sais pas si ça m'inquiète, mais c'est vrai qu'avec le temps, les questionnements et l'évolution de la société, bon, c'est pas trop où ça va aller. Ah, il y a une poule qui a fait son œuf. Enfin voilà, bon allez, la pause est finie, je vais continuer le boulot et je vais aller voir mon autre troupeau. Bon, je viens de sortir les vaches, je vais aller nettoyer leur étable. Tous les jours en fait j'enlève les bouses, ce qui permet d'avoir une aire paillée suffisamment propre et qui dure relativement longtemps. Ça évite de curer à la main leur étable. Donc là, elles sont dans un champ moitié prairie, moitié forêt. Il y a pas mal de lierre, donc c'est bien parce qu'elles aiment bien. Et je reviendrai les chercher ce soir. Voilà, donc Pétunia a été inséminée lundi. Donc normalement, si ça a pris, elle devrait avoir un veau fin décembre, le 29 décembre. Donc j'espère que ce sera une femelle. Et j'espère que cette fois, il sera bien placé et qu'il sera vivant. Donc on verra. Donc là on est dimanche matin, il me reste pas grand chose à faire, il me reste juste le grain à donner aux brebis qui sont au tunnel, qui ont des agneaux, et à aller voir le lot de brebis dehors. Et puis ça devrait être bon pour ce matin. Je sais pas, je les entends de là qui réclament le grain. Et ben je vais me faire un petit bout de repas et puis je vais essayer de me prendre une heure pour tricoter. Alors c'est marrant parce que j'ai une grosse période tricot où j'arrivais à tricoter un petit peu tout le temps. Et là, bon, je pense que c'est du fait des agnelages. Je passe quand même beaucoup de temps au tunnel et ben, le reste quoi. Du coup, j'ai un peu moins le temps. J'essaie de faire une heure chaque soir après avoir couché la petite. Et voilà, donc j'ai plusieurs projets en cours et j'en ai deux nouveaux entre guillemets. Donc il me reste toujours la manche de mon Amélia, enfin la moitié de manche de mon Amélia que j'avais déjà fait et que j'ai détricoté parce que je l'ai trouvé trop serré en fait, donc j'ai rajouté des mailles. Il me reste cette demi-manche à faire, ça devrait pas prendre longtemps, peut-être que je vais faire ça après manger, je vais voir. Et il me reste les coutures donc de côté. J'ai commencé le novice sweater pour une copine, donc ça c'est chouette. Je suis ravie du patron, je suis absolument ravie de la laine. C'est de laine que j'avais jamais travaillé, c'est mince, comment ça s'appelle? C'est la Kid Silk, ouais, je crois que c'est ça, Kid Silk de chez Drops. Coloris mer du Nord, et puis une autre laine en mérino, c'est la mérino extra fine 120 de Schachenmayr. Coloris, je sais plus. Enfin voilà, donc ça fait des jolis bleus, c'est très doux, c'est plutôt léger, et je pense que ça va être vraiment un pull roudoudou à souhait. Donc ça, j'ai commencé il y a quelques temps, et c'est le premier projet où je tricote en 6,5. c'est des aiguilles pardon en 6,5, donc ça fait quand même un tricot qui va relativement vite puisque c'est des grosses aiguilles. Et j'avais jamais tricoté aussi gros. Je crois que le plus gros que j'avais fait c'était du 5 mm. Et voilà. J'avoue que ça me plaît bien. J'aime bien le rendu sur le tricot. Après je tricote pas des heures et des heures. Bon, je viens juste de commencer, mais ce que je trouve, c'est quand même assez lourd au niveau des mains. Bon, c'est pas très lourd, mais c'est plus fatigant, pardon, que du 5 par exemple.
Oh là là, faut que j'aille donner le grain.
Donc je suis en train de faire ça. Il y a aussi un autre pull que je vais commencer pour ma grande sœur, qui est le pull océan. Je vous mettrai le lien, c'est un superbe pull. Alors je me suis lancée dans un truc un peu casse-tête parce que j'ai trouvé de la très belle laine. Alors je crois que c'est un pull qui se tricote en 3 mm ou 3,5. Bon, autant dire que j'avais aucune envie de le faire dans cette taille d'aiguille parce que c'est un pull en jacquard. Avec pas mal de couleurs et donc déjà qui va prendre du temps. Donc j'ai trouvé une très très belle laine. C'est une laine, comment elle s'appelle ? Navia Trio. Donc je vous mettrai les liens pareil. C'est une laine que je connaissais pas. Et en fait c'est de laine qui se tricote en 4,5 mm. Donc j'ai fait des calculs, des maths, j'ai été dans mes bouquins de tricot, de patrons de tricot, etc. Et j'ai réécrit entre guillemets le patron pour que ça aille avec cette taille d'aiguille. Donc voilà. Et c'est vraiment une laine. Il y a trois types de laine dedans, je crois. Il y a la laine des Féroé, la laine d'Australie et l'autre je sais plus, enfin c'est écrit sur l'étiquette et elle est très jolie. Alors moi c'est les laines que j'aime parce que c'est les laines qui ne sont pas traitées en superwash et en fait ça fait vraiment laine quoi. Vous sentez elle a l'air un peu sèche mais je pense qu'après un premier lavage blocage ça devrait se régler. Donc ça, je l'ai pas commencé et je vais le tricoter en 4,5. Donc ça devrait aller assez vite. Et j'ai mon Coastal Pullover de Anna Fetti qui avance tout doucement du coup parce que je l'ai un petit peu mis de côté, mais qui avance quand même. Et voilà. Donc ça, c'est mes en cours tricot. J'ai encore une petite paire de chaussettes, mais c'est pareil. Je l'ai un peu laissé tomber. Là, j'ai envie de tricoter plutôt des pulls. Il y a une laine que j'ai ressortie de mes boîtes à laine qui est de la laine de chez Grundel, je crois. Ça s'appelle la Hot Sox. Et en fait, il y a du mérino, de la soie et du cachemire. Et j'avais acheté 3 pelotes, je crois, pour faire une chaussette, enfin une paire de chaussettes, pareil, en jacquard, un peu de type norvégien. Donc ça, j'ai ressorti ça et j'avoue que j'ai bien envie de commencer. Mais bon, j'ai d'autres choses à faire avant, donc je vais pas trop m'éparpiller. J'ai mis un bazar monstre dans l'atelier. Il y a toutes mes boîtes de laine sorties, il y a mes sacs à projet sortis, il y a des... Enfin bon... J'ai fait un peu de couture pour me faire des petits cahiers, enfin des petits bloc-notes pour chaque projet tricot parce que j'ai envie de faire ça. Donc il y a des papiers partout, il y a, enfin bon voilà, tout est... Il y a du tissu sur la table à repasser, il y a la machine à tricoter les chaussettes qui est en plein milieu avec une chaussette en cours. Enfin bon... Heureusement que cette pièce est dédiée à ça parce que bon, et en fait c'est aussi la chambre d'amis, enfin on met un matelas quand il y a des gens qui viennent et on a reçu un ami le week-end dernier ou il y a 2 semaines, enfin, et en fait j'ai tellement eu la flemme de ranger qu'on a mis Elga dans notre chambre et qu'il a dormi donc du coup dans la chambre d'Elga, donc finalement la chambre d'amis n'a pas servi. Mais bon, mais là j'ai décidé de me fabriquer des étagères ou d'aller en acheter d'ailleurs dans un magasin de bricolage, je sais pas, je vais voir, parce que en fait j'ai mes tables de travail, enfin d'écriture, de tissage, de machine à tricoter, de couture, mais j'ai pas d'étagère quoi. Donc niveau rangement c'est quand même limité et ça fait vite des boîtes sur des boîtes sur des boîtes. Donc je vais essayer, j'ai vu qu'on avait pas mal de vieilles planches mais elles ont l'air très grosses en chêne. Donc j'ai pas trop envie de les utiliser pour ça, je préfère les utiliser pour autre chose. Je vais voir s'il ne nous reste pas des petites planches de voliche de châtaignier. Et puis je vais essayer de faire ça. Et si vraiment c'est trop compliqué, moi j'irai en acheter. Voilà pour les projets tricot.
Bonjour Chloé, merci encore pour ce nouvel épisode du mois de février. Alors, la personne pour laquelle je suis la plus reconnaissante dans ma vie, c'est la petite fille que je porte dans mon ventre depuis 7 mois, parce qu'elle est arrivée un peu par surprise après quelques épisodes douloureux et que je goûte ma chance chaque jour de la sentir bouger en moi, de la voir... modifier mon corps et de m'apprendre à vivre à deux. Voilà, merci encore pour tous ces partages. C'était Federica. À bientôt.
Bonjour Chloé, je m'appelle Sandra, j'ai un petit peu plus de 50 ans et je vis dans le Loiret. Je vous fais parvenir ce petit message vocal, donc j'ai pas l'habitude de m'enregistrer, j'espère être aussi naturelle que vous. Je voulais juste vous dire que je vous ai découverte il y a quelques jours, une semaine tout au plus. J'ai découvert votre premier podcast, Journal d'une curieuse créative, que j'ai beaucoup aimé. J'aimais beaucoup les différents segments. Ce qui a fait que je suis arrivée sur votre podcast, c'est mon amour pour les arts textiles. Et je pense que le tout premier que j'ai écouté, c'est l'histoire du tissage, qui m'attire beaucoup en ce moment. Que je n'ai pas encore vraiment expérimenté, mais j'ai vraiment beaucoup aimé votre format de podcast, avec le petit segment sur la lecture aussi, parce qu'évidemment je lis également beaucoup. J'ai mis un certain temps avant de comprendre que vous aviez abandonné ce format et que vous étiez passé à un format plus de pastilles sonores, et je dois dire que j'aime peut-être plus. Ce petit côté bref, sur site, online, enfin c'est un petit format qui me convient également beaucoup. Et en tout cas, je voulais vous remercier pour votre curiosité, votre naturel, le fait que vous nous partagiez votre quotidien, vos doutes, vos joies, vos petits bonheurs, vos interrogations. C'est un vrai plaisir de vous écouter. Alors en ce moment, je suis en train de vous écouter en crochetant. Je fais du crochet tunisien, mon premier pull, parce que je me suis mis aux arts textiles il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai bien du mal, donc je pense à vous parce que lors d'un épisode précédent, vous mettiez en avant le côté d'expérimenter par soi-même, sans trop peut-être regarder les tutos ou en essayant de se déconnecter. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc j'ai un petit peu de mal, mais je pense beaucoup à vous et je pense que vous avez raison aussi. Enfin bref, c'est un vrai plaisir d'avancer cette encolure, parce que je suis à l'encolure, c'est très compliqué, tout en vous écoutant. Voilà, merci beaucoup à vous. Bonne journée.
Alors la question pour cet épisode et pour le mois de mars, c'est une question toute simple. Donc c'est le mois du printemps et donc ma question c'est comment vous sentez-vous à l'approche du printemps et ce changement de saison? N'hésitez pas à répondre, soit en laissant un commentaire sous l'article de blog, soit en envoyant une réponse par mail à l'atelier fibrelaine@gmail.com et vous pouvez aussi m'envoyer un message sonore via le répondeur des carnets sonores qui est en lien sur mon site www.l'atelierfibrelaine.com et j'essaierai de vous mettre dans le prochain épisode. Voilà, donc la question du mois de mars, c'est comment vous sentez-vous à l'approche du printemps et au changement de saison?
Et la gagnante du concours est Federica. Bravo!
Alors, vos réponses à la question du mois m'ont beaucoup touchée, donc je vais vous lire les commentaires que j'ai eus ou les mails. Donc la question était la suivante, c'est pour quelle personne de votre vie êtes-vous le plus reconnaissant? Alors j'ai eu plusieurs commentaires et des réponses par mail et un petit message vocal. Alors, le commentaire de Bleuette G. Bonsoir et merci pour ce jeu. C'est toujours un grand plaisir de t'écouter. J'ai beaucoup de personnes envers qui je suis très reconnaissante, mais je choisis ma maman, qui aurait 86 ans maintenant, qui m'a appris à tricoter et à qui je dois le goût des loisirs créatifs. Merci Bleuette G. Alors, un autre commentaire de Sophie C.
Merci pour tes carnets inspirants. Je suis reconnaissante envers mes deux filles qui me rendent fière. À 41 ans, avoir deux jeunes femmes ambitieuses à mes côtés me garde ambitieuse aussi. Et envers mon mari qui me permet d'être moi et de m'épanouir. Reconversion pro en agriculture, loisirs créatifs. Je suis chanceuse de les avoir. Donc merci beaucoup pour ces deux commentaires et je vais vous faire écouter deux petits messages sonores que vous m'avez laissés soit sur ma boîte mail, soit via le répondeur des carnets sonores. Merci beaucoup à Sandra et à Federica pour leurs deux messages et merci d'avoir partagé votre reconnaissance envers la personne qui compte pour vous. Voilà, et ben je vous dis à très vite et merci encore de votre écoute et surtout n'hésitez pas à répondre à la question que je vous ai posée et en laissant un commentaire ou par mail ou sur les répondeurs. Je vous souhaite un très bon mois de avril et j'espère que vous avez passé un bon mois de mars. À très vite.